cieux sont sur toi, Fils de Dieu, notre Sauveur. Toi, l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi.
Amen, nos yeux sont vraiment sur le Seigneur dans ces temps de crise et nous bénissons le Seigneur parce que nous pouvons toujours garder nos regards sur lui. Je voudrais revenir ce matin à la pensée entamée en début de semaine qui avait pour titre « Le juste vivra de sa foi ». Je relis Habacuc chapitre 2, les quatre premiers versets. « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée et elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra de sa foi. » Il est question dans ce texte de notre foi, non pas de celle des autres, mais la nôtre. Nous ne pouvons pas vivre de la foi des autres. C'est vrai dans le domaine du salut de nos âmes, mais c'est également vrai concernant les temps de crise que nous sommes en train de traverser. Il n'y a rien de plus personnel que la foi. La pratique de la foi. Piété peut se faire d'une façon collective et c'est vrai que dans le contexte dans lequel nous sommes, nous ne pouvons pas vivre cette pratique de la piété de façon collective. Mais en ce qui concerne la foi, il n'y a rien de plus personnel. Je ne dis pas individuel, mais personnel. Nous l'avons dit, mais on peut le rappeler ce matin, que Habacuc, lorsqu'il a été confronté à ses incompréhensions, et surtout à cette invasion, se tient à son poste. Le texte nous dit que Habacuc est monté dans la tour de guet pour se tenir à son poste. Nous devons nous rappeler que les temps dans lesquels nous sommes nous obligent, nous, en tant que disciples de Jésus, et aussi en tant qu'Église, à nous tenir à notre poste. J'aime cette expression, lorsqu'il est dit que Habacuc était à son poste. Il n'a pas quitté le combat, il n'a pas abandonné ses responsabilités, il n'a pas démissionné, mais il s'est tenu à son poste. Quand il nous est dit qu'il est monté à la tour pour prendre son poste, c'est la tour de guet dont il est question. C'est de là que la sentinelle pouvait voir arriver le danger et alors avertir le peuple de Dieu de se préparer au combat, de se préparer à la guerre. Lorsqu'il est dit qu'il est monté à la tour, il n'est pas monté pour lire un magazine, pour regarder une série sur son smartphone. Non, il est monté pour être dans la plus grande vigilance, dans le plus grand sérieux. Ce n'était plus le temps du divertissement, ce n'était plus le temps de l'amusement, c'était le temps de la guerre et du combat, et c'était surtout le temps d'être dans une alerte spirituelle. Habacuc est l'image du gardien, de la sentinelle, et cela nous apporte une leçon pour nous aujourd'hui, et particulièrement pour les temps dans lesquels nous sommes. En tant que peuple de Dieu, nous savons que le danger approche. Et il est de notre responsabilité d'avertir les gens de fuir la colère à venir. Vous trouverez cette pensée et même cette expression dans Matthieu chapitre 3 verset 7 et dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10. Oui, il y a une colère qui vient dans le monde. Et ce que nous sommes en train de traverser n'est pas la manifestation de la pleine colère de Dieu. Il suffit de lire et d'étudier le livre de l'Apocalypse, comme nous l'avons fait avec ceux qui jeûnent le jeudi midi, pour nous rendre compte que la manifestation de sa colère sera bien plus grande que ce que nous sommes en train de vivre. La mortalité sera extraordinaire, un tiers de la population mourra, et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est loin de la réalité de la manifestation de la colère de Dieu.
L'espoir des cieux brille comme l'aube du matin. Car pour toujours, il nous donne une vie nouvelle. Non plus aucune crainte, ni ténèbres en sa lumière sans fin. Venu des cieux pour nous, descendu par
Je crois que malgré le drame de la crise et le drame des morts, nous sommes dans des temps propices pour avertir le monde, pour avertir les pécheurs perdus qu'ils peuvent en Jésus-Christ trouver le repos et le salut de leur âme. Nous devons annoncer plus que jamais qu'il y a un nom au-dessus de tout nom, un nom qui doit être reconnu comme le nom majestueux et devant qui nous devons fléchir le genou. Il y avait un autre prophète contemporain de Habacuc, Jérémie, qui était lui-même un gardien sur le tour ou sur le mur, parlant à Juda avant et même pendant et après l'invasion babylonienne. Dans Jérémie chapitre 6 verset 16, nous lisons « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. » Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondirent, nous n'y marcherons pas. Voyez, le prophète Jérémie en son temps aussi a été un homme qui a tenu sa place sur la tour. Il avertit le peuple de Dieu de revenir aux anciens, de rechercher les anciens sentiers. Le peuple de Dieu s'était détourné, allant sur des nouveaux sentiers. Et si vous connaissez un peu le contexte, vous vérifierez que les sentiers étaient les sentiers de l'idolâtrie. Jérémie avertit le peuple qu'il y a une bonne voie, une seule bonne voie, et cette bonne voie, il devait la rechercher pour pouvoir y marcher. La réponse du peuple est terrible, nous n'y marcherons pas. Mais bien aimé, il nous faut revenir à la simplicité de l'évangile. Peut-être, ne voyons pas le danger étant dans un sentiment de paix et de tranquillité, l'Église de Jésus-Christ s'est fourvoyée à abandonner les anciens chemins, les anciens sentiers pour aller marcher sur de nouveaux chemins qui, derrière, eh bien, étaient des chemins d'idolâtrie. Vous voyez, Dieu a toujours envoyé des prophètes pour avertir son peuple de l'imminence du danger. Et peut-être aujourd'hui, il manque des voix prophétiques. Oh, je ne parle pas de ces prophètes qui jouent aux prophètes apocalyptiques. Non, je parle de véritables voix prophétiques, parlant de la part de Dieu, annonçant au monde qu'il est temps de se tourner vers Dieu, annonçant aux rétrogrades qu'il est temps de revenir vers Dieu. Je crois que l'une des stratégies du diable, de Satan, est de chercher à endormir les prophètes de Dieu, car il sait que les chiens muets qui sont endormis ne feront jamais de grandes blessures à sa cause. Le veilleur vigilant ne peut pas prendre de repos. Il sait que le danger est là. Le gardien de Dieu ne peut pas prendre de sommeil. Il doit veiller, pour reprendre l'image de notre texte, il doit veiller sur la ville qui est là. Il doit être vigilant, alerté, crier, sonner l'alarme lorsque le danger arrive. Puissions-nous nous poser la question avec le soin du Saint-Esprit de sonder notre cœur, et nous devons nous demander si nous sommes encore individuellement et puis collectivement en tant qu'Église, sommes-nous encore des sentinelles qui se tiennent à leur poste, qui alertent le monde qu'il est temps de faire la paix avec Dieu, ou alors sommes-nous des sentinelles endormies ayant abandonné notre poste et laissant le terrain à l'ennemi des âmes? Car vous le savez, si nous ne nous occupons pas le terrain, un autre lui l'occupe. C'est pourquoi il faut occuper le terrain dans le cœur de nos enfants, malgré le confinement, malgré l'absence pour l'instant d'instruction biblique. Il faut occuper le terrain du cœur de nos enfants, de nos ados, de nos jeunes, afin que l'ennemi, lui, ne prenne pas leur cœur, et pire que cela, leur vie. Je voudrais terminer avec cette exhortation, comme nous le disions hier à la réunion de Saint-Julien. Le confinement n'est pas arrivé à immobiliser l'Église. Le confinement et le fait que nous soyons séparés de corps n'est pas arrivé à immobiliser l'Église ni à la rendre impuissante. Nous bénissons le Seigneur pour les moyens techniques à notre disposition, pour garder la communion fraternelle, pour revoir nos visages. Certains se sont rasé la barbe, d'autres l'ont laissé pousser. Et c'est vraiment intéressant, c'est sympa de voir ces choses. Mais nous bénissons le Seigneur donc pour les moyens techniques à notre disposition, pour garder la communion fraternelle, pour garder l'enseignement de la parole de Dieu, pour garder la vie de prière de l'Église, car nous prions ensemble lors de nos réunions. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure à midi pour notre temps de jeûne et prière par Zoom. Mais ce qui risque d'immobiliser l'Église, ce n'est pas ce temps de confinement, c'est plutôt un relâchement spirituel. Que Dieu nous fasse la grâce de ne pas tomber dans la paresse spirituelle, et que Dieu nous fasse la grâce de rester des guetteurs sur la tour, veillant à l'approche de l'ennemi et alertant le monde qu'il est temps de faire la paix avec Dieu. Nous allons terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous exhorte, Seigneur, à ne pas nous relâcher. Même si nous ne sommes pas ensemble dans le même lieu, nous voulons rester, eh bien, alertés. Nous voulons être encore des sentinelles dans ce monde. Tu vois le monde dans lequel nous sommes. Tu vois le chaos dans lequel nous sommes. Tu vois l'inquiétude, l'angoisse de nos contemporains. Seigneur, permets-nous d'être à notre poste pendant ces temps de crise, d'être de ceux qui annoncent l'Évangile, la bonne nouvelle, qui donnent une espérance à ceux qui sont désespérés. Bénis, s'il te plaît, chacun de ceux qui ont besoin de toi, et tout particulièrement, nous prions pour nos malades, afin que maintenant, une nouvelle fois, tu poses ta main sur eux et que tu puisses les guérir. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen.
Il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu, venu des cieux pour nous, descendu par amour. Il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu.
Nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous donnons rendez-vous à ceux qui le peuvent ce midi pour notre temps de jeûne et prière. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.